Voilà, donc merci à toutes et tous d'être là ce soir. Je suis vraiment ravi et très honoré d'accueillir Christophe Charles ce soir à la maison d'Auguste Comte. Vous connaissez sans doute sa carrière d'historien que j'aurais bien du mal à résumer. Ses derniers grands travaux, notamment Une vie des intellectuels qu'il a fait avec Laurent Jean-Pierre, je crois que c'est Laurent.
Oui.
Laurent Jean-Pierre, en deux volumes, enfin, qui est une somme vraiment très très importante. Et peut-être un petit peu plus particulièrement ce soir, un ouvrage assez récent, le Paris capital des 19e siècle, qui est paru l'an dernier au Point Seuil et qui est vraiment une somme extraordinaire sur le Paris du 19e, donc qui est tout à fait en accord avec ce lieu, puisque Auguste Comte donc, a habité toute sa vie à Paris, il est resté à Paris également dans cet appartement de 1841-1857, donc c'est vraiment complètement dans la période. Et je suis ravi de l'accueillir sur un thème vraiment très particulier qui est les épidémies de choléra du 19e siècle, parce qu'on connaît à Paris. On connaît celle de 1832, mais il y a aussi celle de 1849, qui est un petit peu moins connue. Mais c'est l'occasion justement de voir à quel point ces pandémies et ces épidémies, ces pandémies à l'époque, ont changé la société et ont changé vraiment l'époque aussi, et leur gestion. Donc je suis vraiment enchanté de vous recevoir ici, Monsieur Charles, et merci beaucoup de votre venue.
Ben, merci à votre invitation et à votre présentation. Oui, j'ai un peu choisi ce sujet, vous pouvez imaginer, en fonction d'une certaine actualité qui n'est pas uniquement celle du 19e siècle, puisque nous avons tous vécu, j'imagine, dans cette salle, une autre épidémie il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs on n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit terminée, et même si évidemment les circonstances sont très différentes, les maladies n'ont pas du tout les mêmes formes, ni tout à fait la même gravité, c'est intéressant de voir comment une société, en particulier une société urbaine, comme celle de Paris, a réagi face à un fléau de ce type, et en même temps, combien finalement le souvenir de ça, à la fois a marqué l'époque, on va le voir à travers un certain nombre de textes que je vais citer, mais de Paris, alors que là, on va le voir, il y a une spécificité profonde de la manifestation du choléra dans le cas de Paris de 1832 et de 1849, et c'est une façon indirecte, comme l'a été le Covid, une façon indirecte de lire une société, puisque ces réactions, évidemment collectives, sont significatives des hiérarchies sociales, des structures sociales, et aussi de la relation entre le pouvoir et l'action collective. Donc ça sera un petit peu les thèmes que je vais aborder, mais évidemment je ne vais pas rester à ce niveau d'abstraction ou de généralité. On va commencer classiquement, comme on doit le faire en histoire, par situer les choses précisément et à faire un récit aussi précis que possible des événements avant de venir à des éléments plus interprétatifs. Alors cette première épidémie donc de 1832, elle n'est évidemment pas uniquement parisienne. Vous avez ici la chronologie de son déclenchement à l'échelle mondiale. Elle commence, comme souvent au XIXe siècle, dans le delta du Gange. C'est un réservoir idéal pour toutes les maladies à l'époque, encore sans doute un peu aujourd'hui. Et cette épidémie commence très tôt, 1817, vous voyez, 15 ans avant qu'elle arrive à Paris. Donc ça nous montre aussi la différence finalement du temps historique entre notre époque, où on le sait, l'épidémie du Covid a commencé au mois de novembre-décembre en Chine et évidemment elle était déjà présente chez nous vers janvier-février. Donc là on voit un autre espace-temps, vous voyez que ça suit un petit peu les grands courants commerciaux, on passe ensuite à Malacca et à Java, où elle fait 400 000 morts, ce qui est absolument énorme. Elle revient en Inde, mais dans la partie occidentale de l'Inde, Calcutta, Bombay, et puis ensuite elle passe par, évidemment, les bateaux, par les îles de l'océan Indien, la Réunion est touchée, donc déjà un territoire français, l'île Maurice, et de l'autre côté, elle continue aussi son chemin du côté de la Chine. Et puis elle remonte par le Moyen-Orient, le Proche-Orient, Perse, Arabie, vous voyez, Irak. Et puis après, elle pénètre dans les espaces
sous domination russe, Caucase, Sibérie, et elle arrive en 1830 dans les deux grandes capitales russes, Saint-Pétersbourg et Moscou. Et puis de là, évidemment, comme vous le savez, à cette époque, l'Empire russe contrôle une partie de la Pologne, et comme il y a des troupes qui circulent, hein, ça passe souvent par les troupes, la Pologne, qui justement s'est révoltée contre le tsar en 1831, devient un nouveau foyer à cause des contacts, évidemment, qui ne sont pas simplement militaires, mais aussi humains, dans cette partie de la Pologne orientale. Et puis ensuite, évidemment, elle pénètre dans l'Empire austro-hongrois, en Prusse, et ensuite elle arrive dans les ports de la Baltique, et par les ports, évidemment, elle va contaminer toute l'Europe occidentale, puisqu'on va avoir le premier cas à Londres en début 1832, et c'est ensuite un cadeau britannique qui nous est envoyé par Calais, et le premier cas français est enregistré le 15 mars, et il faut ensuite une quinzaine de jours pour que Paris soit touché, donc fin mars, au moment du carnaval. Donc vous voyez, un long périple, mais qui évidemment a sa cohérence par rapport au flux d'échanges et au contact entre les différentes parties du monde. Vous voyez que l'Amérique, en tout cas dans cette chronologie, n'est pas encore touchée, donc on voit qu'il y a quand même encore un monde qui est essentiellement un monde euro-asiatique. Alors comment les choses se sont-elles déclarées à Paris? Eh bien, pour le savoir, nous avons des témoins tout à fait éminents. L'un des plus connus, qui a écrit de très beaux textes, si l'on peut dire, sur un sujet pareil, c'est Henri Heine, qui est donc un écrivain, un poète allemand, vous le savez, qui est venu à Paris sous l'effet de la Révolution de 1830. Il vivait en Prusse et il était très insatisfait de la situation politique. Et voyant la révolte parisienne de 1830, il a pensé qu'il serait plus heureux dans un pays où la liberté arrivait à renverser une monarchie. Et évidemment, il va y avoir ensuite un certain nombre de désillusions qu'il va rencontrer. Bon, la première, c'est que malheureusement, la révolution de 1830, vous le savez, ne s'est pas terminée comme certains l'espéraient, c'est-à-dire par le retour de la République. Mais surtout, il constate que cette ville qu'il idéalisait un peu comme capitale de la Révolution, Paris, va être totalement désemparée face à cet événement cataclysmique qui la touche au moment du carnaval. Voici donc le texte, parce que peut-être c'est un peu trop petit pour que vous puissiez le lire, surtout si vous êtes au fond de la classe. « Par la grande misère qui règne ici, par l'immense malpropreté qu'on y trouve ailleurs encore que dans les classes la plus pauvre, par l'irritabilité du peuple surtout, par sa légèreté sans bornes, par le manque total de dispositions et de mesures de prévoyance, le choléra devait s'étendre avec plus de promptitude et d'horreur qu'en aucun autre lieu. » Donc vous voyez, l'image idéale qu'il avait de Paris maintenant est devenue une image un petit peu d'horreur, puisqu'il insiste beaucoup, vous l'avez vu, sur la malpropreté, sur le fait que tout le monde est touché, pas seulement les plus pauvres, et surtout par l'incapacité des autorités à faire face au phénomène. Son arrivée fut officiellement notifiée le 29 mars, et comme c'était le jour de la mi-carême, qu'il faisait beau soleil et un temps charmant, les Parisiens se trémoussèrent avec d'autant plus de jovialité sur les boulevards, où l'on aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive de la figure et la figure des fêtes, raillaient la crainte du choléra et la maladie elle-même. Le soir même du jour, les bals publics furent plus fréquentés que jamais. Donc pas du tout de précaution ni de distance sanitaire comme on en a observé récemment. Le soir du même jour, les bals publics furent plus fréquentés que jamais. Les rires les plus présomptueux couvraient presque la musique éclatante. On s'échauffait beaucoup au chahut, c'est une danse de l'époque, danse peu équivoque, c'est une danse assez sensuelle, on se rapproche assez fort. On engloutissait à cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides, quand tout à coup le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque, et découvrit à l'étonnement de tout le monde un visage d'un bleu violet. Ça, c'est un des symptômes du choléra. On s'aperçut tout d'abord que ce n'était pas une plaisanterie. Les gens croyaient évidemment qu'il s'était déguisé en malade du choléra, mais c'était un vrai malade. Et les rires se turent. Et l'on conduisit bientôt plusieurs voitures de masques du bal immédiatement à l'Hôtel Dieu, hôpital central, où en arrivant sous leur burlesque déguisement, le plus grand nombre moururent. Comme dans les premiers moments d'épouvante, on croyait à la contagion et que les anciens hôtes de l'hôpital avaient élevé d'affreux cris d'effroi, on prétend que ces morts furent enterrés si vite qu'on ne prit pas le temps de les dépouiller des livrets bariolés de la folie et qu'ils reposent dans la tombe gaiement comme ils ont vécu. Bon, là, évidemment, ça c'est un peu de la littérature un peu ironique, comme aime en faire Henri Heinem. Enfin, vous voyez, il y a une incapacité à prendre au sérieux cette maladie, même si on sait qu'elle est déjà proche de Paris et qu'elle s'avance, et une volonté de vivre normalement, quoi qu'il arrive, et de participer aux festivités du carnaval, ce qui, évidemment, par les attroupements et les rencontres, facilite la diffusion de la maladie. Alors, ce traumatisme va s'étendre sur plusieurs mois, puisque la maladie commence en mars, et il va y avoir plusieurs vagues, et elle ne va se terminer qu'en septembre, donc ça dure quand même assez longtemps, mais surtout, il y a une très grosse concentration des décès au mois d'avril-mai, donc vraiment au moment du printemps, le moment où tout le monde, évidemment, devrait être heureux et se réjouir, et au contraire, évidemment, un voile de deuil s'abat sur la capitale. Alors ça a été un traumatisme considérable, puisque Paris va être sans doute la ville, enfin la capitale la plus touchée dans toute l'Europe, hein, d'après les statistiques comparées, je reviendrai tout à l'heure sur les chiffres, et surtout ça va laisser un souvenir durable dans la population, puisque 13 ans plus tard, Eugène Sue, dans un roman, un grand spectacle, et très, très lu à l'époque, qui s'appelle Le Juif errant, va consacrer un très long passage de son roman pour situer un petit peu l'époque et montrer combien c'est une époque particulière. Alors voilà ce qu'il dit de cette épidémie une quinzaine d'années après. « Terrible temps que celui-là. Un voile de deuil s'est étendu sur Paris, naguère si joyeux. Jamais pourtant le ciel n'a été d'un azur plus bleu, plus constant. Jamais le soleil n'a rayonné plus radieux. Cette inexorable sérénité de la nature durant les ravages du fléau mortel offrait un étrange et mystérieux contraste. L'insolente lumière d'un soleil éblouissant rendait plus visible encore l'altération des traits causés par les mille angoisses de la peur. Car chacun tremblait, celui-ci pour soi, celui-là pour les êtres aimés. Les physionomies trahissaient quelque chose d'inquiet, d'étonné, de fébrile. Les pas étaient précipités, comme si en marchant plus vite on avait chance d'échapper au péril. Et puis aussi on se hâtait de rentrer chez soi. On laissait la vie, la santé, le bonheur dans sa maison. 2 heures après, on y retrouvait souvent l'agonie, la mort, le désespoir. À chaque instant, des choses nouvelles et sinistres frappaient votre vue. Tantôt passaient par les rues des charrettes remplies de cercueils, symétriquement empilées. Elles s'arrêtaient devant chaque demeure. Des hommes vêtus de gris et de noir attendaient sous la porte. Ils tendaient les bras, et à ceux-ci l'on jetait un cercueil, à ceux-là 2, souvent 3 ou 4 dans la même maison. Si bien que parfois, la provision était vite épuisée et bien des morts de la rue n'étaient pas servis, entre guillemets, et la charrette arrivée pleine s'en allait vide. Donc voilà, vous voyez, un peu une atmosphère quand même extrêmement sombre, dramatique, et qui frappe de terreur l'ensemble de la population. Alors, Eugène Sue, vous le savez, c'est un roman ancien que vous avez peut-être lu, je ne sais pas, ou vous avez vu peut-être des adaptations en feuilleton. Son roman plus connu, c'est Les Mystères de Paris, mais surtout il insiste beaucoup sur la grande inégalité qui va frapper la population parisienne, puisqu'il y en a qui seront beaucoup plus touchés, soit malades, soit décédés que d'autres. Voilà ce qu'il écrit. « Dans les quartiers sombres, infects, ou au milieu d'une atmosphère morbide, vivait entassée une foule de prolétaires déjà épuisés par les plus dures privations, et ainsi que l'on disait énergiquement à l'heure, tout mâché pour le choléra, il ne s'agissait plus d'individus, mais de familles entières, enlevées en quelques heures. Pourtant, parfois, ô clémence providentielle, un ou deux petits-enfants restaient seuls dans la chambre, froides et délabrés, après que père et mère, frères et sœurs, étaient partis en cercueil. Souvent aussi, on fut obligé de fermer, faute de locataires, plusieurs de ces maisons, pauvres ruches de laborieux travailleurs, complètement déshabitées en un jour par le fléau, depuis la cave, où selon l'habitude, couchaient sur la paille de petits ramoneurs, jusqu'aux mansardes, où hâves et demi-nus se roidissaient sur le carreau glacé, quelques malheureux sans travail et sans pain. Alors évidemment, il y a peut-être une petite part d'exagération chez Eugène Sue, mais on va voir quand même qu'effectivement, ce sera mon premier plan, il y a une concentration des décès sur certaines parties de la population et certains quartiers de la ville. Alors voilà déjà un premier bilan en termes de décès avec une chronologie mois par mois. Donc vous voyez, le mois de mars arrive fin mars, donc il y a encore assez peu de décès. Et puis brutalement, en avril, on a 12 733 décès. En mai, ça descend un peu, 812, en juin aussi. Et puis fin juin, ça repart, une nouvelle vague, 602. Et ça remonte en juillet jusqu'à 2573 décès. Et puis de nouveau, ça redécroît, 969, puis 357. Donc vous voyez, il y a des vagues alternées. Et au total, vous voyez, 18 402 décès. Bon, alors il ne faut pas prendre évidemment ce chiffre trop au pied de la lettre, même si la statistique du 19e siècle est supérieure à celle d'autres périodes. Il y a sûrement des gens qui sont partis malades de Paris et qui sont décédés en dehors de Paris, parce qu'il y a toute une phase à la fin mars, début avril, de gens qui ont peur et qui partent de Paris parce que, évidemment, ils pensent qu'ils vont être contaminés, mais ils ne savent peut-être pas qu'ils sont déjà contaminés, et en partant, ils vont évidemment soit décéder en route, soit contribuer à la diffusion de la maladie dans d'autres régions françaises. Donc c'est certainement des chiffres qui sont en dessous de la réalité du nombre réel de Parisiens. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des gens qui ne sont pas forcément morts du choléra, mais qui, parce que le choléra va paralyser en quelque sorte la vie sociale, la vie économique, beaucoup d'entreprises vont se trouver arrêtées, beaucoup de gens vont se retrouver en chômage, du coup ils vont perdre leur emploi et donc leurs ressources, et vivre dans une misère noire qui parfois peut susciter de nouvelles maladies qui ne sont pas forcément le choléra et qui peuvent être aussi fatales à l'époque. Et puis il y a bien sûr la grande inégalité géographique que l'on voit sur cette carte de Paris. Alors évidemment c'est une carte de Paris de l'époque, hein, c'est le Paris des 12 arrondissements, qui est beaucoup plus petit que le Paris auquel vous avez l'habitude de voir sur les plans officiels. Ça correspond donc en gros au mur des fermiers généraux, donc c'est le Paris de la Révolution française, dans les limites du Paris de la Révolution française, dont le sud, vous voyez, c'est en gros aujourd'hui c'est le boulevard Blanqui et le boulevard Saint-Jacques, hein, la ligne du métro aérienne, et au nord c'est également l'autre ligne du métro aérienne, donc vous voyez, c'est un peu le Paris enfermé entre la ligne numéro 2 et la ligne numéro 6. Donc c'est un Paris beaucoup plus petit, mais où il y a quand même déjà près d'un million d'habitants, enfin entre 800 et 1 million, ça dépend des années, mais enfin on est quand même dans une ville très très dense, et où les morts, évidemment, se contaminent les uns, enfin les malades se contaminent les uns les autres aisément du fait de cet entassement, mais vous voyez qu'il y a quand même des quartiers beaucoup plus touchés que d'autres. Alors évidemment c'est une carte de l'époque, non, pas forcément aux normes qu'on aimerait avoir, mais enfin on peut quand même voir déjà un très gros point noir au milieu qui correspond évidemment au centre le plus ancien, le quartier de l'Hôtel de Ville, le quartier de l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, donc vraiment le noyau le plus ancien de la ville, là où il y a encore toutes ces vieilles rues, toutes ces vieilles masures dont certaines remontent parfois au Moyen-Âge, et où évidemment les gens sont dans des conditions de vie extrêmement précaires, puisque ce sont les maisons les moins bien cotées, et où on entasse les gens les plus pauvres, où il y a aussi énormément de gens qui habitent en garni, vous savez, des habitats collectifs, où les gens louent leur lit au jour le jour, et où évidemment la promiscuité est extrêmement forte. Autre zone qui peut nous surprendre plus, c'est vers l'ouest. Vous voyez le quartier du Gros Caillou et le quartier Saint-Thomas-d'Aquin. Donc actuellement, ça se situe dans le 7e arrondissement, qui ne passe pas pour un arrondissement particulièrement prolétarien aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait un mélange. Encore dans un Paris où il y avait des mélanges de populations et des parties assez pauvres, y compris dans cette partie-là de Paris. Et il y avait aussi une forte concentration de casernes, d'établissements militaires, hein, à côté des Invalides. Et évidemment, c'est souvent les soldats qui servaient de propagateurs, puisque à l'époque, une des habitudes était de faire circuler les régiments. Hein, on ne voulait pas que les régiments restent trop longtemps au même endroit. Surtout quand ils étaient à Paris, parce qu'on avait peur que la population, avec ses idées subversives, contamine les malheureux soldats et les fasse changer de camp. Donc on apprenait l'habitude de faire tourner les unités, et évidemment ils se retrouvaient dans ces casernes, et comme ils venaient de régions qui avaient pu être contaminées, ils étaient parfois porteurs de ces vibrions de choléra. Autre zone, c'est évidemment là, à l'est, le quartier du Faubourg Saint-Antoine, qui est quartier traditionnellement très, très ouvrier, très prolétarien et très pauvre, et au sud-est, le quartier un peu plus au sud d'ici, c'est l'ancien 12e arrondissement qui correspond au nord du 5e arrondissement et au nord du 13e et au sud du 5e arrondissement, qui lui aussi est très frappé. Alors, bien sûr, c'est une carte qui est issue du rapport qui a été établi en 1834, après la fin de l'épidémie, où on verra les gens essayent de se poser des questions, essayent de comprendre pourquoi ces quartiers, plus que d'autres, ont été touchés, puisque inversement, vous voyez, en zone plus claire, on a les quartiers de l'ouest, du nord-ouest, quartier des Champs-Élysées, quartier de la Chaussée-d'Antin, etc., qui sont évidemment des quartiers beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus aisés, mais en même temps, on n'est pas dans une échelle de ville très grande, donc on ne comprend pas que ces quartiers puissent être préservés, alors que les quartiers tout proches, eux, sont dans des zones beaucoup plus touchées. C'est parce que, évidemment, on ignore comment se fait la contamination. Elle se fait essentiellement par les eaux usées, et les rejets de la population. Et il y a une des particularités de Paris, évidemment, qui est fâcheuse pour ce point de vue-là, c'est qu'une partie de l'alimentation en eau de la ville se fait par des pompes qui sont situées l'une à côté de Notre-Dame, donc au plein centre, et l'autre au Gros Caillou, donc un peu plus à l'ouest, justement dans un des quartiers qui va être particulièrement touché. Et ces pompes puisent de l'eau dans la Seine pour la distribuer, un peu filtrée, mais enfin pas tellement, parce qu'on n'a pas des techniques extrêmement sophistiquées à l'époque, qui vont servir pour abreuver les Parisiens, pas uniquement pour leurs ablutions. Et du coup, comme une partie des égouts est rejetée également dans la même Seine, et souvent en amont de ces pompes, vous avez un circuit sanitaire à l'inverse, c'est-à-dire qu'on contamine l'eau qui va servir ensuite à boire et ensuite évidemment va transmettre le choléra puisqu'il sera transmis aussi par les rejets des égouts. Donc vous avez ces deux zones qui sont partiellement touchées parce qu'elles sont évidemment branchées l'une sur les pompes qui abreuvent et en même temps sur une partie de la Seine qui est polluée très largement par les rejets des habitants. Alors qu'à l'inverse, vous avez un autre circuit d'alimentation et qui vient du nord, hein, c'est le canal de l'Ourcq, qui est branché sur une rivière qui est située au nord de Paris et qui justement alimente plutôt les quartiers du nord et de l'ouest. Et cette eau qui vient des canaux de l'Ourcq, elle évidemment n'est pas contaminée par les égouts et par la Seine. Et donc elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus saine et va évidemment beaucoup moins contribuer à la diffusion de la maladie. Donc vous comprenez bien que c'est tout à fait lié à ce sous-équipement parisien en eau potable et en eau digne d'être potable, parce que ce qu'on appelait potable à l'époque, aujourd'hui on le rejetterait largement, et surtout une insuffisance du circuit d'épuration des eaux usées qui se rejettent directement dans le fleuve sans aucun contrôle, comme on le fait aujourd'hui évidemment avec des collecteurs qui envoient ça sur des champs d'épandage. Donc tout ça traduit, vous voyez, tout à fait le sous-équipement, le caractère sous-développé de cette ville qui se prétend à la tête de la civilisation, enfin qui se prétend un des centres des élégances et des lumières, et qui en fait, dans sa vie quotidienne, est en des conditions tout à fait moyenâgeuses, ou en tout cas indignes d'une ville comme celle-là, mais où en plus il y a une très grande inégalité face à ces équipements, et qui se traduit directement dans la carte de contamination des populations. Alors, les quartiers les plus touchés, donc là c'est simplement si vous voulez avoir des chiffres, hein, on peut toujours donner des chiffres, c'est, vous voyez très nettement en tête l'hôtel de ville, donc le centre, la cité, le quartier des Arcis, c'est un quartier tout à fait à côté aussi de l'hôtel de ville, et le quartier de l'Arsenal, donc juste en face de l'île Saint-Louis. Puis ensuite, sur la rive gauche, vous avez évidemment le quartier du Jardin des Plantes, Saint-Thomas d'Aquin, le quartier Saint-Jacques, le Marais et l'île Saint-Louis. Donc vous voyez, il y a quand même une concentration des plus forts taux de choléra pour 1000 habitants dans une zone très, 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 très caractéristique. Alors qu'à l'inverse, les quartiers les moins touchés, vous voyez, sont tous des beaux quartiers, entre guillemets, la place Vendôme, Montmartre, mais il ne s'agit pas de Montmartre-la Colline, il s'agit du faubourg Montmartre, la chaussée d'Antin, le quartier Feydeau, donc aussi au nord-ouest, le Palais Royal, le Mail et la Banque. Donc on voit bien toute cette zone nord-ouest qui est préservée parce qu'elle est alimentée par des sources et des fontaines qui sont beaucoup moins polluées que les autres quartiers que je viens de citer. Alors, autre inégalité, ce n'est pas simplement une inégalité géographique, c'est aussi bien sûr une inégalité selon le type d'occupation de cette population à Paris. Alors, il faut se représenter Paris comme étant constitué, enfin, sans doute lui évidemment Balzac, mais de plusieurs couches très différentes. Il y a ceux qu'on appelle les journaliers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui s'emploient au jour le jour, et qui peuvent, d'un jour à l'autre, évidemment être en chômage, ce qu'on appellerait aujourd'hui des travailleurs précaires, qui sont sans contrat de durée précise, et qui, évidemment, s'offrent leur service au petit bonheur la chance, et qui, évidemment, du coup, sont obligés de circuler en permanence un peu partout dans la ville pour essayer de trouver du travail, et du coup, évidemment, ils sont au contact de nombreuses populations qui peuvent contribuer à la contagion. Deuxième grande catégorie qui est particulièrement touchée, oui, ce sont les couturières. Alors là aussi, c'est un des prolétariats féminins de cette époque. Ce sont parmi les femmes, évidemment, les plus précaires aussi, les plus mal payées, et qui sont toutes obligées aussi de vivre dans certains quartiers parce que leurs ressources sont très faibles et donc vont être particulièrement concentrées dans les quartiers les plus pauvres que nous avons cités. Alors les portiers aussi sont très frappés parce qu'ils ne sortent jamais de chez eux, donc ils sont en contact avec pas mal de gens, c'est tous les gens des immeubles évidemment dont ils font la garde, mais évidemment ils n'ont jamais l'occasion d'aller voir ailleurs puisqu'ils sont attachés à leur quartier et sont éventuellement enfermés dans cette zone de contamination qui est la leur. Enfin vous voyez, ce qui est frappant, c'est que tous les travailleurs en chambre, comme on disait à l'époque, ceux qui sont vissés à leur métier parce qu'à l'époque beaucoup de gens travaillent chez eux, sont plus touchés que les autres parce que évidemment ils vivent en vase clos et au contact de populations comme eux, c'est-à-dire qui sont également plus touchés que les autres. Inversement, c'est ça qui est surprenant, les balayeurs qui sont au grand air, comme chacun sait, les bateliers, les terrassiers, les chiffonniers, pourtant les chiffonniers sont plutôt au contact de matières assez douteuses, mais ils ont des taux de mortalité moins élevés, donc il faut mieux être au bon air, comme on dit. C'est ça qui a fait croire d'ailleurs, c'est une des origines d'une fausse analyse qui a été faite à l'époque par les médecins, c'est-à-dire c'est la théorie des miasmes, c'est-à-dire qu'il y aurait des substances, on ne savait pas ce que c'était, nous on dirait aujourd'hui des microbes, enfin eux ne savaient pas que les microbes existaient, donc des substances délétères qui sont dans l'atmosphère et qui, parce qu'elles sont concentrées, si on n'aère pas et si on est dans des maisons étroites et dans des rues étroites, stagnent et du coup vous contaminent et vous transmettent la maladie. Alors que ceux qui ont la chance de pouvoir sortir chez eux, d'aller ailleurs, de circuler dans la ville, sont moins dans ces atmosphères confinées, donc moins prisonniers de ces miasmes. Alors bon, c'est une théorie qui est fausse, on le sait, sur le plan médical, mais enfin, elle donnait une vraisemblance à cette opposition entre travailleurs en chambre et travailleurs à l'extérieur, les uns étant plus touchés que les autres. Alors ceci dit, il faut aussi regarder à l'échelle globale, et si on compare Paris à d'autres villes, on constate que Paris, évidemment, fait plus mal que bien d'autres villes, enfin, Heine le disait déjà, parce que Paris est une ville sale, une ville sous-alimentée en termes d'eau potable, il y a un nombre de litres d'eau potable par habitant bien inférieur à celui qu'on trouve à Londres ou dans les autres capitales européennes. Les réseaux d'égouts sont en retard sur la croissance de la population, donc il y a beaucoup de zones polluées qui stagnent et qui sont évidemment des sources de contamination. Il y a une énorme vidange au nord de Paris, dans la zone actuelle des buts de Chaumont, où on déverse toutes les matières fécales qu'on récupère dans les puits qui sont sous chaque immeuble. Et donc évidemment tout ça, ça crée toute une zone extrêmement nocive et qui facilite la transmission de toutes les maladies et du choléra en particulier. Autre spécificité parisienne, c'est, on l'a déjà vu à travers la géographie, les grandes inégalités sociales, puisqu'on a les gens les plus pauvres, les gens les plus riches dans la même ville. Les grandes inégalités dans les modes d'habitation, puisqu'on a des gens qui ont des hôtels particuliers, bien sûr, à l'ancienne, comme l'aristocratie ou la grande bourgeoisie, et puis des gens qui s'entassent dans des garnis les uns sur les autres. Donc on a des écarts sociaux considérables. Et puis il y a surtout d'énormes tensions sociales qui vont se déclarer à l'occasion de cette épidémie. Il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes que 2 ans après la révolution de 1830. Même après la révolution de 1830, il y a eu un certain nombre d'émeutes parce qu'un certain nombre de militants étaient très déçus, évidemment, du retour à une monarchie, même si c'était la monarchie de Louis-Philippe, ça n'était qu'une monarchie, alors qu'eux s'étaient battus sur les barricades pour avoir la République. Donc on a encore des minorités activistes qui essayent de refaire la révolution, en tout cas de tenter des émeutes pour déstabiliser le pouvoir en place, et il va de nouveau, le choléra va de nouveau être l'occasion de relancer ce type d'activité politique subversive en utilisant l'inefficacité du pouvoir, en créant le pouvoir qui ne fait rien, qui est incapable de faire face à l'épidémie, donc pour dire il faut changer le régime si on veut que les choses soient faites, et puis surtout en répandant l'idée que c'est le pouvoir qui est responsable, donc les thèses complotistes, hein, qui me rappellent sans doute des phénomènes plus récents, donc l'idée que c'est le pouvoir qui en fait diffuse la maladie volontairement, puisqu'il est incapable de faire face, pour tuer les pauvres, hein, puisque ce sont les pauvres qui sont les plus touchés, et on veut tuer les pauvres parce que les pauvres sont dangereux, et les pauvres se révoltent. Donc il y a tout un discours un peu complotiste, mais qui peut avoir quelques vraisemblances vu la situation, pour essayer de soulever la population et qu'elle se révolte contre le régime. Alors la première catégorie qui va se révolter, c'est pas du tout des révolutionnaires ni des gens politiquement très, très subtils, puisque ce sont les chiffonniers. Mais pourquoi ces chiffonniers sont-ils en colère? Eh bien, c'est parce qu'il y a une malheureuse rencontre de phénomènes indépendants l'un de l'autre. C'est qu'au moment où le choléra se développe, est mis en place une nouvelle législation sur le ramassage des ordures. Le système de ramassage des ordures en Paris était encore assez précaire. Il y avait 2 catégories. Il y avait des gens, il y avait une compagnie qui était chargée de ramasser dans des tombereaux tout ce qui traînait dans la rue et ensuite l'accumuler dans des zones particulières. Et puis tout ce qui n'était pas ramassé par cette compagnie, parce que cette compagnie évidemment n'arrivait pas à faire face à tout ce que les Parisiens avec intelligence jetaient dans la rue, c'était récupéré par une autre catégorie de gens, qui étaient des gens qui vivaient à leur compte, qui étaient des petits travailleurs indépendants, dirait-on, des auto-entrepreneurs, si on veut employer l'expression d'aujourd'hui, qu'on appelle les chiffonniers, et qui sont là pour récupérer tout ce qui traîne, tout ce qui n'a pas été récupéré par le service de nettoyage. Et parce qu'on est dans une économie, comme on dirait aujourd'hui, circulaire, Paris est une ville qui fait beaucoup d'habitants, donc ces habitants produisent beaucoup de déchets, enfin vous connaissez ce schéma qui est encore tout à fait d'actualité, et dans ces déchets, il y a énormément de choses à récupérer, parce qu'on jette des chiffons, on jette des tissus, on jette du linge, on jette des restes d'animaux, des peaux, on jette du cuir, du fer, etc. On a toutes sortes de matières premières qui sont réutilisées par toutes sortes d'industries parisiennes. Avec tous ces déchets, on recycle tout ça. Hein. Vous voyez, on est déjà dans la pré-écologie actuelle. Et on recycle tout ça et on fabrique autre chose avec ça. Donc ces chiffonniers sont un peu des intermédiaires très utiles pour l'économie parisienne. Hein. Et ils se pensent comme tels, ils se pensent très utiles et ils ne comprennent pas pourquoi on gêne leur travail, parce que la nouvelle législation a confié le ramassage à une compagnie différente qui a des voitures beaucoup plus petites et qui va pouvoir circuler beaucoup mieux dans Paris, dans les petites rues, et donc récupérer des choses qui étaient oubliées avant par les tombereaux plus importants. Donc c'est en quelque sorte leur gagne-pain qu'on leur fait perdre. Donc ils vont se révolter contre cette nouvelle réglementation, et comme en même temps il y a tout un discours qui se répand dans la population, mettant en cause les chiffonniers comme étant peut-être la source du choléra, parce que comme ils manipulent des choses assez immondes, il faut bien le dire, ils peuvent être aussi à l'origine de la contamination, donc ça va créer une tension très particulière, il y aura plusieurs jours d'émeutes qui vont être durement réprimés. Et puis deuxième événement, alors plus tardif, au moment où déjà le choléra a quand même un peu baissé, début juin 1832, les 5 et 6 juin 1832, on enterre le général Lamarque, qui est un général républicain, et vous savez sans doute qu'à l'époque, les manifestations sont étroitement contrôlées par le pouvoir. Souvent, on utilise les enterrements des personnalités qui ont une certaine coloration politique pour manifester, en fait, son adhésion aux idées qu'incarnait ce personnage. Évidemment, les républicains, qui sont toujours en colère contre le régime de Louis-Philippe, vont essayer d'utiliser l'enterrement du général Lamarque pour à la fois organiser un très grand rassemblement, parce qu'on ne peut pas interdire un enterrement, ça serait attentatoire à la dignité, évidemment, du décédé, et ensuite essayer de mobiliser les gens qui vont venir à cet enterrement pour qu'ils aillent défendre leurs idées plus sérieusement et manifester leur hostilité au gouvernement. Et il y aura donc 2 jours d'émeute à la suite de l'enterrement du général Lamarque. Mais évidemment, cette émeute va mal se terminer. Mais enfin, vous voyez comment Paris est une ville toujours en ébullition. Hein, on est peu de temps après la révolution de 1830 et le choléra va redonner un petit peu de grain à moudre à cette ébullition. Alors, que font les autorités? Elles font ce qu'elles peuvent, pas grand-chose. C'est-à-dire, d'abord, il y a un grand débat médical, et il y a les deux théories. La théorie contagionniste, donc c'est les gens qui se contaminent les uns les autres, on ne sait pas trop comment, on n'a pas trop de... Donc il faut les séparer, il faut les isoler, etc. Première réponse. Et puis les anticontagionnistes, qui de toute façon, ça ne sert à rien. Ça vient d'ailleurs, c'est les miasmes, il faut au contraire sortir de la ville, il faut s'en aller, il faut aérer, il faut ouvrir la ville, etc. Et ceux qui, évidemment, comme aucun des deux remèdes est efficace, une forme de médication qu'on va proposer, plus fantaisistes les unes que les autres, à chaque fois que ça n'a pas d'effet. Évidemment, l'équipement hospitalier, donc ça me rappelle aussi quelque chose, va être débordé. Les enterrements, on l'a vu, sont extrêmement nombreux sur une toute petite période, donc là, il y a un problème de gestion de tous ces défunts. Et puis il y a surtout la crise économique, puisque ça paralyse l'activité, hein, quand les entreprises sont désorganisées, les pauvres se retrouvent sans travail, dans la misère, parfois malades et sans possibilité de se soigner. Et du coup il y a des rumeurs. On l'a vu, dès qu'on empoisonne les eaux de source, hein, puisqu'on s'aperçoit évidemment qu'il y a un lien avec les eaux de source, mais on ne comprend pas lequel. Alors il y en a qui pensent que c'est le gouvernement qui empoisonne les eaux de source. Et donc une période extrêmement sombre pour une grande partie de la population, sauf les plus riches, puisque les plus riches évidemment disposent souvent de résidences en dehors de Paris et vont s'en aller très vite quand ils voient que les choses deviennent très sérieuses. Donc il y a un sentiment d'abandon, même si, il faut le reconnaître, les autorités, en tout cas les plus visibles, c'est-à-dire les membres du gouvernement, vont garder la présence dans Paris, ils vont même aller rituellement, symboliquement, dans les hôpitaux pour consoler les malades. Et résultat de cela, le plus important personnage de l'État, non pas le roi, mais le Premier ministre, Casimir Perier, va contracter le choléra, justement, au cours d'une de ses visites hospitalières, et va en mourir. Et ça va être un exemple, évidemment, qui va être utilisé pour le pouvoir, pour montrer combien ça n'est pas du tout un complot du pouvoir, puisque même le plus haut personnage de l'État, après le roi, a été victime du choléra. Et donc ça montre bien, quand même, que ça pose des problèmes politiques assez profonds. Alors, comment les rapports qui ont été faits en 1834 répondent à cela? On constate qu'ils sont complètement désemparés. Voilà ce qui est un extrait des premières pages de ce rapport. Partout on essaie de le combattre, le choléra, partout les efforts sont vains. Il se joue des barrières qu'on lui oppose, comme des remèdes que l'on emploie. Il vient sans qu'on en connaisse la cause, il disparaît sans qu'on en sache la raison. En vain, on ouvre les cadavres de ceux qui l'a frappé, on interroge la mort ne révèle rien. Donc la médecine s'avère totalement impuissante, et en plus les médecins ne sont pas d'accord entre eux et ne proposent aucune solution qui s'avère efficace. Alors la seule chose que ce rapport a constaté, et donc ça confirme ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure avec mes statistiques et mes cartes qui sont d'ailleurs empruntées à ce rapport, c'est le déséquilibre dans la répartition des décès selon les parties de la ville. En résumé, les 6 premiers arrondissements de Paris et essentiellement les arrondissements de la rive droite. Sur une population de 383 390 habitants, on aime bien les chiffres tout à fait précis à l'époque, on a perdu 5196 personnes, ou 13,55 pour 1000. Les six derniers, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, sur une population de 375 745, c'est-à-dire presque la même, en ont perdu 11376, donc deux fois plus, ou 30,28 pour 1000. La mort en les frappant a donc mis une grande inégalité dans ces coûts. Donc, le seul défaut de cette statistique, c'est qu'ils additionnent des arrondissements qui sont des deux côtés de la Seine, et dans ces arrondissements des deux côtés de la Seine, on l'a vu, il y a une partie qui est plus touchée que l'autre, donc en fait, ça ne traduit même pas tout à fait bien les équilibres géographiques, même si ils l'ont quand même constaté. Donc cette première épidémie va évidemment traumatiser durablement, on l'a vu, mais ne va pas pour autant permettre de dégager des solutions, puisqu'il n'y a pas une analyse ni médicale, ni sociale, ni politique satisfaisante à l'issue de ce rapport, et un constat d'impuissance. Alors on va prendre quelques mesures quand même, on va essayer d'améliorer l'état sanitaire de la ville en ouvrant de nouvelles rues, par exemple la rue Rambuteau va être ouverte à cette époque-là, en essayant de développer un peu l'approvisionnement en eau pour que les quantités soient plus importantes et surtout soient puisées dans des lieux moins pollués que jusque-là. Mais on va le voir, ces mesures sont très insuffisantes, puisque 17 ans après cette épidémie de 1832, une deuxième épidémie va éclater en 1849, à peu près à la même époque, au printemps, et elle va durer aussi à peu près jusqu'au début, à la fin de l'été, au début septembre. Et comme vous le voyez à travers les chiffres, la mortalité est tout aussi importante. On avait 18 402 morts en 1832, là on en a 19 184, c'est pratiquement même un peu plus. Bon, sauf qu'il faut tenir compte qu'entre 1832 et 49, il y a plus d'habitants à Paris, donc en taux, le taux est un peu plus faible. Enfin, en masse, évidemment, c'est aussi frappant que pour la précédente épidémie. Donc ça montre bien que les mesures prises entre-temps n'ont évidemment pas été à la hauteur des enjeux. Alors ce qui change en revanche, c'est la géographie qui est beaucoup plus concentrée, avec des points communs. Vous voyez de nouveau le 5e arrondissement actuel et une partie du 7e actuel qui sont particulièrement touchés en grisé et en noir. Et en revanche, on retrouve toujours cette géographie des beaux quartiers qui est moins touchée, mais la rive droite est beaucoup moins touchée qu'elle ne l'a été en 1832. Donc il y a une concentration des malades sur des zones plus étroites et des zones qui sont un peu hétéroclites, puisque vous avez à la fois un quartier assez populaire, puisque le 5e arrondissement de l'époque, enfin le 12e à l'époque, enfin, qui représente une partie du 5e et une partie du 13e aujourd'hui, est plus populaire, bien entendu, qu'aujourd'hui, mais le 7e n'est pas non plus le quartier le plus populaire. Donc on voit bien que c'est toujours l'effet du branchement par rapport à l'eau potable et au réseau d'égouts qui reste l'explication la plus probante, plus que le niveau probable de richesse des habitants. Alors ce qui a frappé aussi les observateurs, c'est que cette deuxième épidémie se produit là aussi après une révolution. 1848, la Révolution rétablit la République à Paris, donc on est un peu analogiquement comme en 1830 où on change de dynastie, mais contrairement à 1832, ça n'a pas suscité d'émeutes, ça n'a pas suscité de mouvements de panique ou d'affolement comme en 1832. Ce qui est un peu étrange puisque Paris est une ville révolutionnée, c'est une ville où il y a encore une très forte mobilisation populaire, même si en 1848 vous avez eu en juin la fameuse révolte des ouvriers des ateliers nationaux, donc une partie du mouvement ouvrier a été décapitée, mais il y a encore une assez forte mobilisation populaire. Et pourtant, le choléra n'est pas utilisé comme il avait été utilisé par les républicains en 1832 pour essayer de se soulever. Alors l'explication peut être relativement simple, c'est que finalement, les républicains avaient promis que s'il y avait la République, tout allait bien. C'était le grand thème. Or, on est en République et de nouveau, on a le choléra. Donc, la théorie qu'on pouvait défendre en 1832 ne peut plus fonctionner. On ne peut plus dire c'est à cause de la monarchie. Donc c'est déjà un argument qui tombe. Et puis, surtout, les républicains sont en position défensive parce qu'ils ont perdu les élections de 1849. Ils ont vu la Chambre, l'Assemblée nationale, passer nettement plus à droite qu'elle ne l'était en 1848, et donc ils sont sur la défensive, et ils n'ont pas pu utiliser évidemment cette situation pour mobiliser les gens. Et puis comme le choléra est beaucoup plus concentré sur une certaine zone, c'est plus difficile aussi de mobiliser largement la population qui souffre. Donc on a un contraste entre ces deux épidémies. Alors, évidemment, traditionnellement, après, on n'en parle plus du choléra à Paris, c'est fini, Haussmann arrive, Napoléon III, l'ordre règne, tout va bien, il va tout mettre en œuvre, hein, on va creuser des égouts, on va ajouter des nouvelles sources pour alimenter les Parisiens, on va créer des parcs, on va ouvrir de larges avenues, on va agrandir Paris, donc ça c'est le grand discours habituel sur l'haussmannisation, et bien sûr, par un miracle bizarre, tout va s'arranger, il n'y aura plus d'épidémie. Et bien malheureusement, c'est un peu une lecture un peu simpliste, puisque vous le voyez, j'ai retrouvé deux autres épidémies à l'époque de Napoléon III et d'Haussmann. Alors bien sûr, elles sont un petit peu moins violentes que l'épidémie de 32 et de 49, et on est quand même à des hauts niveaux de victimes, hein, en 1865-66, 11 000 victimes, on est quand même très proche du chiffre de 1832, en dépit de l'haussmannisation, puisque là on est quand même dans la pleine période de l'haussmannisation. Donc ça montre bien que l'haussmannisation, elle toute seule, bon, elle a peut-être un peu amélioré, évidemment, les provisionnements en eau, elle a un peu amélioré, bien sûr, aussi l'évacuation des eaux usées, mais elle n'a pas résolu complètement les problèmes sanitaires de la ville. Il faudra attendre vraiment la fin du 19e siècle, et certainement aussi le fait que la population est beaucoup moins entassée qu'elle ne l'était, puisque grâce à l'élargissement de Paris aux 20 arrondissements, on va pouvoir construire de nouvelles maisons dans des quartiers moins tassés, et un peu donc éviter cet entassement qui était une des origines aussi des contaminations. Et donc le choléra devient une maladie du Sud. Vous voyez, les grandes épidémies de 84 en Europe occidentale se concentrent en France, essentiellement dans le sud de la France. Évidemment, elle est venue de l'Orient, et c'est la première région touchée, c'est la région de Marseille, la Provence, etc. Alors là, on arrive à la période où la médecine, puisque la cause du choléra, donc le vibrion, est isolé par Robert Koch en 1883, et on va commencer un peu à mieux contrôler les choses, et surtout les conditions de vie des populations se sont un peu améliorées. Alors, dernière poussée de choléra, c'est mon point final, 1892, et là, vous voyez, c'est une géographie totalement différente. On voit que maintenant, ce sont les quartiers les plus populaires, mais du nord, hein, c'est plus du tout la rive gauche, c'est plus du tout le quartier latin, c'est beaucoup moins, évidemment, le faubourg Saint-Germain, c'est au contraire les quartiers les plus prolétaires du 19e, du 20e, et un peu du 18e, donc toute cette zone au nord où la population ouvrière vit dans des conditions encore assez précaires, parce que on est dans des quartiers où les logements ne sont pas du tout aux normes des autres zones de Paris. Donc on voit bien le déplacement, en quelque sorte, des sources de la contagion et de la diffusion de la maladie vers les nouveaux quartiers qui se sont prolétarisés à la fin du 19e siècle. Alors j'en arrive à ma conclusion. Vous voyez le décalage, hein, entre les épidémies et les réponses, puisque les compréhensions des causes ne sont vraiment percées qu'en 1883, et encore à l'époque on n'a pas vraiment de vaccin contre le choléra. Les mesures d'urbanisme sont lentes, elles ont un effet lent, et surtout elles reposent sur une théorie qui est fausse, c'est la théorie des miasmes, mais de toute façon c'est toujours mieux d'avoir de l'eau potable et d'avoir des cabinets d'aisance qui fonctionnent plutôt que de vivre dans des cloaques. Et maintenant, je me retourne évidemment vers l'endroit où nous sommes. Auguste Comte, on vous l'a dit au début, habitait évidemment à Paris pendant cette période. Il a donc vécu les deux épidémies que j'ai citées. Et vous savez qu'une de ses grandes idées, c'était évidemment que la science, à plus ou moins long terme, serait le remède à tous les problèmes de l'humanité. Mais il a été obligé de constater que la médecine, sur laquelle il fondait de grands espoirs, il admirait beaucoup un médecin comme Broussais, mais il s'est aperçu que Broussais était totalement incapable de trouver des remèdes à l'épidémie. Donc la conclusion, évidemment, c'est qu'il faut que la médecine progresse, et ça sera évidemment la tâche prise en main à la fin du XIXe siècle par Pasteur et les pastoriens. Et on voit que Auguste Comte avait déjà quand même perçu à l'avance sur quoi il fallait faire l'effort. Et si nous faisons un parallèle avec ce que nous avons vécu les deux, trois dernières années, nous constatons aussi que si le Covid n'a pas été, en tout cas pour les pays où nous habitons, aussi terrible que ce qu'il a été dans d'autres régions, c'est parce que justement le défi sanitaire a été relevé grâce à une accélération des progrès de la médecine et à la découverte dans des délais absolument remarquables des vaccins, ce qui évidemment était hors de portée au XIXe siècle. Mais parce qu'il ne faut jamais terminer en histoire sur une note d'optimisme béat, parce que l'histoire est une discipline tragique, il faut rappeler qu'en ce moment même, à Haïti, il y a une épidémie de choléra qui s'est déclarée depuis quelques années, que des signes de début d'épidémie de choléra sont annoncés dans des journaux que j'ai lus il y a une semaine, au Liban et en Syrie, et que c'est évidemment lié à tous les désordres qui ont touché ces régions. Haïti a été frappé par un très grand tremblement de terre, et on a envoyé des casques bleus népalais pour aider les populations. Malheureusement, ces casques bleus népalais étaient porteurs des signes du choléra et les ont transmis à la population. Donc ils ont apporté une aide, mais ils ont aussi apporté une nouvelle source de désordre et de malheur dans cette île qui a toujours été déjà beaucoup frappée dans l'histoire. De la même façon, la région du Liban et de la Syrie, vous le savez, a été frappée par différents cataclysmes, que ce soit l'explosion du port de Beyrouth, que ce soit la faillite de la classe dirigeante libanaise, ou que ce soit la dictature féroce et la guerre civile qui s'est développée en Syrie avec l'aide de puissances étrangères qui n'ont pas fait de quartier et qui évidemment ont tout détruit, et donc tous les éléments au minimum pour qu'une population vive normalement, et qui se sont fait que ces populations se sont retrouvées dans des camps qui sont à peu près aussi confortables que pouvaient l'être les taudis parisiens de 1832. Donc vous voyez, l'histoire n'est toujours pas finie.
Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un tout petit truc par rapport aux relations entre Comte et le choléra. Il en parle très peu. J'ai trouvé une seule mention dans sa correspondance, et elle est plutôt, elle est assez marquante parce qu'elle marque une rupture avec sa famille. La mère de Comte dit à son fils, voilà, bon bah je vois qu'à Paris y a l'épidémie de choléra fait rage. Est-ce que tu viendrais pas passer revenir à Montpellier? Mais il dit, il est marié à l'époque, Auguste Comte, et il dit, mais seul. La mère de Comte veut absolument pas que Comte vienne avec sa femme. Et évidemment, ça va occasionner, 1832, c'est un tournant dans ses relations avec ses parents, et même si le mariage de Comte est assez orageux avec sa femme Caroline, eh bien, il va refuser et donc se fâcher pendant plusieurs années avec sa famille parce que sa mère n'accepte pas que sa femme vienne avec lui à Montpellier pour se protéger du choléra. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Alors effectivement, il vivait ici, il ne vivait pas rue Monsieur le Prince en Corse, qui arrivait en 1841. Il y vivait pendant la seconde épidémie, mais il vivait à l'époque de Rive Droite. Il vivait rue du Faubourg Montmartre en 1832. Donc il avait quitté sa rive gauche et sa montagne Sainte-Geneviève pour aller s'installer brièvement Rive Droite. Et ensuite, il est revenu rue Monsieur dans le quartier latin à la fin des années 1830, et il s'est installé ici. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote concienne par rapport au choléra.
C'était un quartier assez touché par le choléra.
Eh oui, ouais. Mais alors lui, il n'a pas été touché, apparemment, ses disciples de l'époque non plus. Mais voilà, ça, il faudrait que je vérifie. Mais il n'y a pas grande mention du choléra chez Comte, en tout cas.
Non, mais tout le monde n'en meurt pas, heureusement. Mais...
Non.
Comme le Covid.
Voilà.
Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est vraiment tout ça. J'ai entendu parler de...